Julien Traxel.
Benjamin Netanyahou en fait la promesse. Il ramènera tous les otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, les vivants et les morts. Le Premier ministre israélien s'est exprimé hier lors de la clôture des festivités de la journée de Jérusalem. Selon les autorités israéliennes, sur 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien, 57 sont toujours retenues à Gaza. Au moins 34 d'entre elles seraient mortes. De son côté, la Fondation humanitaire de Gaza, créée de toutes pièces et soutenue par les États-Unis, a commencé ses livraisons de nourriture. Elle a annoncé hier avoir emporté des vivres sur des sites sécurisés de la bande de Gaza par camion. Accusée par l'ONU et des ONG de travailler avec Israël, l'organisation a affirmé vouloir distribuer près de 300 millions de repas dans le territoire palestinien, ceci durant une période initiale de 90 jours. Fribourg revoit son concept de lutte contre la violence domestique. Les autorités cantonales proposent 37 mesures avec une priorité mise sur l'unité de médecine des violences. Le Conseil d'État prévoit aussi d'élaborer une loi spécifique pour pérenniser le dispositif cantonal et lutter contre le phénomène de manière forte. Le nouveau concept s'inscrit dans la continuité du précédent qui date de 2018. Il a notamment pour but d'affiner la prise en compte des violences psychologiques, des violences post-séparation ou encore de l'éducation à l'égalité. À Genève, la SLOCA s'inquiète de la multiplication des congés de rénovation donnés à certains locataires. Des locataires qui habitent généralement dans des appartements au loyer inférieur au prix du marché. Après le départ des locataires, ces loyers peuvent ensuite être augmentés et générer plus de rendement. Conseiller national et membre de la SLOCA, Christian Dandresse, a prévenu hier que ce cancer immobilier qui ronge la Suisse alémanique arrive en Suisse romande. La Suisse et l'Arménie resserrent leurs liens. Un comité interparti appelé Initiative Suisse pour la paix au Haut-Karabagh a vu le jour hier à Berne. Il entend soutenir le Conseil fédéral dans ses efforts pour trouver une solution de paix durable dans cette région du Caucase du Sud, une région en proie à un conflit entre l'Azerbaïdjan et la population arménienne chassée par la force. 19 membres du Conseil national et du Conseil des États font partie de ce comité. L'Union européenne reste mobilisée pour trouver un accord commercial rapide avec les États-Unis. Maros Sefcovic, le commissaire européen au commerce, l'a affirmé hier après des échanges avec ses homologues américains. « Nous restons en contact permanent », a-t-il affirmé dans une publication sur le réseau social X. En tennis, Stan Wawrinka a chuté d'entrée à Roland-Garros. Le Vaudois s'est incliné en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2 hier devant le Britannique Jacob Fearnley au premier tour du Grand Chelem parisien. À l'issue de la rencontre, l'homme aux trois titres majeurs a déclaré qu'il n'y avait aucune garantie qu'il revienne à la porte d'Auteuil l'an prochain. Le soleil se montrera timidement ce mardi en Suisse romande. Un faible risque d'averse persiste jusqu'en début d'après-midi, surtout le long des préalpes. Le temps s'annonce ensuite sec en toute région. Quant aux températures, elles grimperont jusqu'à 21 degrés en pleine. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 4 heures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Du 12 au 22 juin, Lausanne accueille le plus grand événement sportif de Suisse, la 77e fête fédérale de gymnastique.
Lausanne, 35,000 athletes from all over Switzerland meet for their gymnastics festival.
Un moment historique et festif où 65 000 gymnastes feront briller l'âme du sport. Spectateurs ou volontaires, rejoignez le mouvement, vivez l'émotion et découvrez la capitale olympique autrement. Plus d'informations sur lausanne2025.ch. La fête fédérale de gymnastique, c'est en direct sur RTS2 et sur l'application PlayRTS.
RTS première, comme une lueur dans la nuit.
Vertigo. Anne-Laure Ganac.
Avec Rodolphe Beauchon en régie, bonjour à vous. Tout de suite, retour en 2010.
C'est donc un succès, l'avion solaire Solar Impulse a accompli son premier vol autour de l'aérodrome de Payerne. Première étape d'une série d'essais qui devrait aboutir d'ici à 3 ans à un vol autour du monde.
Le 7 avril 2010, précisément, Bertrand Piccard réalise un nouvel exploit qu'il inscrit dans une lignée de pionniers, car avant lui, il y a eu le grand-père Auguste, devenu à l'aube des années 30 l'homme le plus haut du monde, en montant en ballon à plus de 15 000 mètres. Et 30 ans plus tard, il y a eu le père Jacques, devenu l'homme le plus bas du monde, en posant son sous-marin dans la fosse des Mariannes. 1, 2, 3 Piccard, c'est le titre d'une nouvelle bande dessinée qui raconte les aventures de cette lignée. On va en parler avec le dessinateur et scénariste Jean-Yves Duhaut et Bertrand Piccard, nos invités dans une vingtaine de minutes. D'ici là, on va décortiquer le palmarès de la 78e édition du Festival de Cannes qu'a suivi pour nous Raphaël Wolf. On va aussi évoquer une nouvelle exposition à voir au MUDAC à Lausanne ainsi qu'à l'EPFL et qui articule science et création autour de l'énergie solaire, largement conseillée par Florence Grivel. Sans oublier l'actualité culturelle consacrée aujourd'hui à deux grands artistes au destin très différents qui se sont arrêtés ce week-end après des vies à témoigner de l'humanité dans toute sa beauté et sa cruauté. Hommage au cinéaste Marcel Ofuls et au photographe Sebastião Salgado dans une trentaine de minutes. Héritage et transmission sont au cœur du rôle de la culture et dans le programme de Vertigo aujourd'hui. Soyez les bienvenus.
17h, 18h, c'est Vertigo.
Et tout de suite, du cinéma.
La Palme d'Or.
Ici, avec tous ceux qui souffrent, non par opinion politique, mais par le cœur, par la compassion, la tendresse, par une humanité partagée, pour la liberté retrouvée. L'art provoque, questionne, bouleverse. Il désarçonne l'ancien et surprend une dimension insoupçonnée en nous. L'art mobilise l'énergie créatrice de la part la plus précieuse, la plus vivante en nous. Une force qui permet de transformer les ténèbres en pardon, en espérance, en vie nouvelle. C'est pourquoi nous avons choisi, pour la Palme d'Or, un simple accident de Jafar Panahi.
Juliette Binoche, lors de la cérémonie de clôture du 78e Festival de Cannes, c'était samedi soir, la présidente du jury a remis la palme d'or au cinéaste iranien Jafar Panahi, donc pour un simple accident. Une palme qui a aussitôt été jugée comme étant éminemment politique. Bonjour Raphaël Wolf.
Bonjour Anne-Laure.
Est-ce que c'était un bon choix selon vous ?
Alors oui, c'est le plus clair, en tout cas le plus juste, et pas seulement, je trouve que Juliette Binoche l'a très bien dit d'ailleurs pour sa dimension politique. Je me souviens d'ailleurs être sorti de la projection cannoise du film génial, entre parenthèses, en me disant qu'il s'agissait d'une palme évidente. Un film où à partir d'un accident de la route banale, un groupe d'anciens détenus politiques, victimes du régime islamique, se retrouvent confrontés à celui qu'ils prennent pour leur ancien bourreau. C'est pas très bien d'ailleurs s'ils ont raison ou pas, c'est une merveille d'écriture et de mise en scène qui dit à peu près tout, à partir d'une situation, on ne peut plus épurer. Je rappelle quand même que Jafar Panahi a tourné son film clandestinement en Iran. Il a été condamné plusieurs fois par le régime, arrêté à plusieurs reprises, emprisonné pendant 7 mois entre 2022 et 2023. Et le cinéaste n'a pourtant pas choisi l'exil. Après avoir reçu sa palme sur la croisette, il est rentré à Téhéran aujourd'hui, risquant d'être encore une fois arrêté. Il a déclaré lors de la cérémonie de clôture, je le cite, « Je me permets de demander à tous les Iraniens, on y Iran et dans le monde. Mettons tous les problèmes de côté. La question la plus importante, c'est la liberté de notre pays et que personne n'ose nous dire ce qu'il faut porter comme vêtement, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. De la même façon, le cinéma est une société où personne n'a le droit de nous dire ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. » J'ai eu un petit peu l'impression que c'est cette liberté-là que le jury a récompensée pour cette seconde palme d'or iranienne après Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami en 1997.
Mais donc une palme d'or à l'image d'un palmarès très politique, Raphaël ?
De nouveau, oui, mais pas que. Alors, politique, effectivement, comme dans L'agent secret de Kléber Mendelssohn-Filho, prix de la mise en scène et prix de l'interprétation masculine à Wagner Moura. C'est un film ample qui revient sur la dictature militaire au Brésil en 1977 sous les dehors d'un thriller paranoïaque. Social aussi, avec les frères Dardenne et leur jeune mère, prix du scénario qui couronne un film à l'écriture très harmonieux qui va équilibrer, en fait, 5 personnages, 5 histoires dans un récit, ma foi, bien plus lumineux que les autres films des cinéastes belges. Et puis intime encore, avec le prix d'interprétation féminine à l'incroyable Nadia Mediti, révélation foudroyante de la petite dernière de Hafsa Herzi, centrée sur une jeune femme qui doit allier sa foi en l'islam, ses études, sa famille et son homosexualité. Et pour les autres films, bah, c'est tout autant le pouvoir du cinéma qu'on a pu ressentir pendant cette sélection, pouvoir réparateur, comme dans Valeurs sentimentales de Joachim Trier, grand prix de cette édition, donc on va dire la seconde palme d'or presque, où la relation compliquée entre un père cinéaste et sa fille comédienne peut trouver une forme d'apaisement grâce au tournage d'un film. Le prix spécial, qui est assez rare mais qui a été décerné cette année, est revenu à Résurrection du chinois Bigan, qui récompense un film trip alors très expérimental en forme d'hommage à l'art cinématographique. Et pour le prix du jury, Ex Aequo, décerné à Sirat et Sound of Falling, il récompense les deux films les plus radicaux en termes d'immersion formelle et sensorielle. Le premier dans un road trip apocalyptique dans le désert marocain et le second dans une exploration hypnotique d'une famille allemande sur plusieurs générations. Mais ce qui se dégage à mes yeux de ce palmarès, c'est justement cette volonté de mettre en avant les œuvres qui ont le plus valorisé une humanité capable de surmonter ses divergences et de s'approcher d'une forme, on va dire, de réunification réconciliatrice.
Oui, donc c'est un palmarès assez réconciliant, vous diriez.
Exactement, je trouve, même très harmonieux, je le rappelle, même si, alors à titre personnel, mais c'est tout à fait subjectif, je vous ai dit tout le bien que je pense de Nouvelle Vague de Richard Linklater, là aussi grand film sur le cinéma comme geste de liberté et de désobéissance, aussi le jubilatoire Eddington d'Ari Aster, un portrait chaotique d'une Amérique totalement divisée, ou encore The History of Sound d'Oliver Hermanus, ma plus grande émotion de ce festival. Trois films qui m'ont enchanté chacun à leur manière, mais sans doute peut-être pas assez fédérateurs, pas assez réconciliants pour obtenir un prix au palmarès cannois.
Donc voilà pour ce retour sur le palmarès. Et c'est donc le cinéaste iranien Jafar Panahi qui a obtenu la Palme d'Or au 78e Festival de Cannes pour Un simple accident. C'est un film qui devrait sortir en Suisse le 10 septembre prochain. Et puis, Raphaël Wolf, il y a un prix dont on parle assez peu à Cannes. C'est le prix Cannes Soundtrack qui récompense la meilleure musique parmi les films en compétition officielle. On en parle peu parce que c'est un prix indépendant du festival, hein, mais qui, depuis sa création en 2010, vient quand même combler un manque parce que le festival ne décerne pas de prix aux compositeurs, compositrices. Il est décerné par un jury de journalistes, dont vous étiez, n'est-ce pas, Raphaël Wolf, cette année?
Oui, on m'a demandé, bah, j'ai dit oui, puisque de toute façon j'allais voir les films, et c'est assez intéressant, parce que évidemment on se met un tout petit peu plus en focus sur la musique, et puis bon, il y a clairement un film qui s'est distingué des autres, et je crois que vous allez en parler.
Alors vous avez également voté, donc, et oui, concouru au succès de la bande originale de Sirat. C'est ça?
Elle est incroyable. Enfin, ouais. Le film est dingue en termes musical et la musique joue tellement un rôle fort dans l'histoire même que, voilà, c'est un prix largement mérité.
Donc, Sirat, c'est ce film franco-espagnol d'Oliver Lax, très radical, vous le disiez, dans son immersion sensorielle, prix du jury. Et cette musique, elle est signée Kang Ding Ray, alias David Letellier, un Français qui a donc reçu ce prix. Là, on est en train d'écouter l'un de ses morceaux de cette bande originale, ça s'appelle These Are My Rivers. Eh bien, on vous remercie, Raphaël Wolf.
Mais, merci à vous.
À bientôt.
À bientôt.
Un peu de la bande originale de Sirat, ce film franco-espagnol d'Oliver Lax qui a reçu le prix du jury au 78e Festival de Cannes ce samedi. Et donc cette musique qui a remporté le prix Cannes Soundtrack Music signé Kang Ding Ray alias David Letellier.
Vertigo, art visuel.
Elle a été lancée pour la première fois en 2022 aux Pays-Bas, la Solar Biennale. C'est une plateforme de réflexion autour de la question de l'énergie solaire. Et pour cette deuxième édition, eh bien, c'est le MUDAC à Lausanne qui construit cette exposition multipiste, Florence Grivel.
Le mantra de cette biennale, c'est comment adopter un avenir alimenté par l'énergie solaire? Quelles sont les nouvelles approches pour concevoir la transition écologique nécessaire? Pour répondre à la question, une exposition très très riche, aussi scientifique que créative, avec évidemment plusieurs chapitres. On y trouve des installations immersives, vidéos, machines, photos, archives, qui imagine, interroge nos futurs possibles avec le soleil. On parle par exemple de revitalisation énergétique. Alors je vous propose de vous mettre maintenant face à cette immense cloche de verre dans laquelle une portion de terre semble fleurir. Mais de quoi s'agit-il donc ? Scott Longfellow, co-curateur de l'expo.
Donc c'est une capsule de voyage temporel pour un écosystème qui est à venir. Qu'est-ce qui va se passer quand le glacier Fellaria qui est en Lombardie va fondre ? Et bien là, on voit ce qui va se passer. Il y a une prairie qui va se développer. Et en fait, cette capsule donne les conditions écosystémiques, climatiques, de lumière qu'aura cette prairie dans 70 ans quand le glacier sera fondu. Il y a un après qui peut être joli et positif.
Au cœur de Solar, on imagine que l'effondrement écologique prévu, dont l'idée nous fige plutôt qu'elle nous active, peut faire place à la création de ce qu'on appelle ces nouveaux récits positifs, comme cette prairie post-glacier. On imagine aussi du design solaire qui soit beau, les panneaux solaires pouvant devenir des objets et esthétiques et fonctionnels. Et on rêve aussi à un être humain dont la société respecterait les cycles circadiens, ce cycle biologique interne qui nous régule et qui est influencé par la lumière. Raphaël Saint-Yanez et Scott Longfellow, les deux curateurs de la Biennale, nous présentent ce projet futuriste pas si loin de nous.
Alors ça, c'est une installation qu'on a fait en binôme avec le studio de design basé à Paris, Vraiment Vraiment, et la chercheuse de l'EPFL, Marilyn Anderson, qui dirige le laboratoire Lipide. Et le but de cette installation, c'est de créer un office cantonal du droit au jour qui s'installerait en 2030 et qui obligerait d'une certaine façon les employeurs à garantir aux leurs employés un droit à la lumière. Puisque c'est lié à l'urbanisme, au fait qu'on est de moins en moins exposé à la lumière, qu'on a des récepteurs qui captent la lumière. Et donc cette installation, elle nous demande de connaître notre horloge biologique et en fonction de l'horloge biologique que l'on a, on peut suivre plusieurs étapes qui nous conduisent à avoir une carte que l'on pourrait donner à notre employeur pour travailler à certaines heures et pas d'autres.
On est toujours un peu dans l'hyper-hyper libéralisme, ça veut dire qu'on nous donne ce dont on a besoin pour performer quand même.
Cette installation va plus loin parce qu'elle essaye déjà de nous faire comprendre quel est notre rapport à la lumière et surtout de comprendre qu'aujourd'hui on est en décalage total avec les cycles du soleil.
Et là, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, c'est totalement faux. Il y a des gens qui sont plus performants le soir, et donc c'est aux entreprises à s'adapter au chronotype personnel de chacun pour le bonheur de tous et toutes.
Raphaël Saint-Yanez et Scott Longfellow, curateurs, donc, qui nous invitent à aller explorer Solar, cette exposition dédiée au soleil et à notre époque contemporaine, à voir au MUDAC de Lausanne, Florence Grivel.
Ainsi aussi qu'à l'EPFL Archizoom, superbe expo qui analyse comment cette source d'énergie solaire devient un réel élément d'architecture. De mon côté, je vous invite à entrer dans cette grotte millénaire au MUDAC, où la lumière se fait rare. Voici une vidéo immersive qui nous plonge dans un rite vieux de 4000 ans et qui nous propose à nous, êtres humains, de faire alliance avec les astres qui nous dominent, de leur puissance aussi réelle que symbolique.
L'Iran a connu une période de grande sécheresse et les Iraniens de cette époque-là ont décidé de prier une divinité qui s'appelle Mitra. Et en fait, cette divinité, en la priant, elle a permis à cette sécheresse de s'en aller. C'est pas une installation qui donne une foi totale en la divinité, c'est plutôt de dire que peut-être que de croire totalement en quelque chose, on devrait davantage être dans le compromis.
On ne se pose pas la question de l'altérité de ces astres. On est juste là avec notre technologie et notre puissance à dire on va le contrôler. Et donc il y a cette sorte de changement ontologique qui est important face aux astres. Donc ils ont effectivement retrouvé les vrais champs donc que faisaient les Iraniens de l'époque pour amadouer le soleil. Et ils sont allés plus loin puisqu'ils ont, avec une intelligence artificielle, essayé de recréer la sonorité du langage de l'époque, qui évidemment est une langue morte et perdue.
Raphaël Santianez et Scott Longfellow, les deux curateurs de cette Solar Biennale, c'est à voir jusqu'au 21 septembre au MUDAC à Lausanne. Voici Meymouna, arracher les ombres.
Entre mes mains tout s'embrasse, j'ai peur me fuir à la nage, tracer mon nom dans la vase, je ne retiens que ce qui fâche. Je me suis perdu.
Entrée au conservatoire de Sion à l'âge de 7 ans pour y apprendre la guitare classique et 23 ans plus tard, Meymouna, alias Cyrielle Formade, reçoit le prix culturel 2025 de la même ville de Sion. Ce prix décerné chaque année récompense un jeune artiste à titre d'encouragement pour son parcours prometteur. Il est doté de 7000 francs. Cyrielle Formade est née à Martigny en 95. Elle écrit, compose, interprète ses compositions inspirées de la folk anglo-saxonne et de la poésie francophone. Et à côté de son projet solo, Meymouna, la Valaisanne compose pour le théâtre, la radio, des films indépendants ou encore des lectures. À suivre, une rencontre avec Bertrand Piccard et le bédéaste Jean-Yves Duhaut. Ce sera juste après avoir rendu hommage à deux artistes, à deux témoins précieux de l'humanité.
L'actu culturel dans Vertigo.
Il y avait beaucoup de magasins juifs ici dans cette rue, je crois.
Oui.
Alors
oui.
Vous avez dû voir pas mal de choses.
Eh bien, c'est-à-dire, oui, ils sont partis, hein, n'est-ce pas? Ils se sont exilés.
Ils sont exilés, mais il n'y a pas eu d'arrestation.
Aussi, un peu partout.
Oui, vous les avez vus.
Hélas, oui.
Le chagrin et la pitié, film documentaire qui, à renfort de témoignages et d'images d'archives, retrace sur plus de 4 heures l'histoire d'une ville française, Clermont-Ferrand, sous l'occupation et qui révèle que, eh bien, contrairement au discours dominant faisant la part belle à la résistance, les Français entretenaient au quotidien des rapports bien plus ambigus avec l'occupant. À sa sortie en 69, cette production franco-germano-suisse en noir et blanc, signée Marcel Ophuls, vraiment fait l'effet d'une bombe. Sa diffusion est interdite. On ne tolère pas un film qui, selon notamment Simone Veil, qui siège alors au conseil d'administration de l'ORTF, salit l'image de la France. François Truffaut, lui, est fan du film et du père du documentariste, le cinéaste allemand Max Ophüls. Il va aider le cinéaste à sortir son film en salle. C'est un succès immédiat, une nomination aux Oscars. Mais Marcel Ophüls n'en reste pas moins rejeté par le milieu du cinéma en France. Il part, revient, repart. Ses films suivants y passeront inaperçus, alors que bien, les personnes qui les voient ne peuvent que constater le génie de ses montages, la lucidité furieuse de son approche des thèmes, tels que l'empreinte de la justice qui est consacrée aux atrocités commises en temps de guerre et qui part du procès de Nuremberg jusqu'aux faits de la France en Algérie, en passant par ceux des États-Unis au Vietnam. Et puis, autre documentaire, Hôtel Terminus, qui retrace la carrière de Klaus Barbie, film monstrueux dans son ambition d'exhaustivité, épuisant pour Ophüls, qui fait même une tentative de suicide durant le tournage de 5 ans, tournage porté à bout de bras par un producteur américain. Le film va remporter l'Oscar du meilleur documentaire en 1989. D'autres documentaires suivront, tous marqués par ce regard acéré, assoiffé de justice, autant que profondément désespéré sur la condition humaine. Des chefs-d'œuvre à voir absolument, en hommage aussi au réalisateur Marcel Ophüls, décédé ce samedi à l'âge de 97 ans.
C'est vrai que pendant toute ma vie, j'ai photographié un seul animal, nous. Quand j'ai travaillé avec, principalement dans l'ex-Yougoslavie, toute la violence que j'ai vue au Rwanda, Burundi, Congo, et j'ai vu une brutalité extrême, n'est-ce pas, une violence extrême, tout pratiqué par nous-mêmes, par notre espèce. Il y avait un moment que j'ai commencé à être fatigué, que j'ai commencé à être en dépression, j'ai vécu tout ça, j'assume tout ça. Tout ça, c'était important pour moi quand j'ai photographié les réfugiés. C'était important que je photographie les miniers. C'était important que je photographie les travailleurs. C'était important. Aujourd'hui, j'ai photographié la nature. C'était important pour moi. C'est ma vie.
Le photographe Sebastião Salgado, interrogé par la RTS ici, alors qu'il présentait l'un de ses très grands projets, Genesis, au musée de l'Élysée à Lausanne. Genesis, c'est ce travail photo qui retrace un tour du monde et de sa nature et des populations vivant hors de nos sociétés contemporaines. Un travail durant lequel le photographe avait contracté la malaria, qui s'était peu à peu transformée en leucémie. Et c'est ce qui a coûté la vie à Sebastião Salgado, décédé ce week-end à 81 ans. L'artiste, né au Brésil, d'une mère d'origine suisse et d'un père, originaire de Galice en Espagne, a parcouru plus de 130 pays, appareil photo en main, cet appareil auquel il s'était découvert un attachement irrépressible alors qu'il s'apprêtait à commencer sa carrière d'économiste. Ce voyageur, dont le nom est presque devenu synonyme de photographie au fil des ans et des clichés en noir et blanc qui saisissaient les peuples en souffrance et la nature en beauté, eh bien il a gardé un lien avec la Suisse et notamment avec le musée de l'Élysée dès ses créations en 1985, dès sa création, celle du musée de l'Élysée, en 85, avec trois expositions majeures. Autre, Amérique, Sahel, l'homme en détresse, c'était en 87, La main de l'homme en 94, et donc Genesis en 2013, qui reste à ce jour encore l'une des expos les plus visitées du musée de l'Élysée. Nathalie Erschdorfer, directrice de Photo Élysée, nous dit ce qui, selon elle, fait de Sebastião Salgado une figure majeure dans l'histoire de la photographie.
C'est une personne qui vraiment a voulu plutôt à la fin de sa vie défendre la beauté de la planète, mais en même temps il a passé sa vie à aussi militer pour la défense de l'homme. C'est vraiment peut-être le dernier grand humaniste et c'est une photographie extrêmement populaire qui, par les sujets et par son esthétique, touche le plus grand nombre.
Vous, Nathalie Erschdorfer, en tant qu'historienne de l'art, en tant que curatrice, qu'est-ce qui vous touche tout particulièrement dans son travail photographique ?
J'ai un souvenir vraiment très marquant d'une exposition que j'avais vue à Paris, je pense que c'était au début des années 90, qui était ce grand projet qui s'appelait La main de l'homme. Et c'était quand j'étais étudiante encore, je ne savais pas encore que j'allais travailler dans le domaine de la photographie, bien que ça m'intéressait beaucoup. Et je me souviens de ces images, je crois que je les ai jamais oubliées. Et c'était des images où on voyait des travailleurs du monde entier. Je me souviens en particulier des mines au Brésil qui montraient ces corps de ces hommes en sueur, recouverts de poussière. Et il y avait évidemment l'esthétique qui était très présente, mais j'ai jamais oublié ces images. Aujourd'hui, je me rends bien compte que cette question de la beauté de ces images, une beauté qui montre souvent la détresse humaine, évidemment pose beaucoup de questions aussi. C'était une façon pour lui, une stratégie aussi, d'aller contre notre indifférence face à la misère du monde. Et c'est sûr que dans la photographie, ces dernières années notamment, on a beaucoup reproché à Salgado d'utiliser cette question de l'esthétisme pour parler de projets qui montrent vraiment une humanité en souffrance. Et ça, c'est des questions qui sont tout à fait passionnantes, je crois, dans la photographie et qui sont très présentes dans l'œuvre de Salgado.
Sébastiao Salgado par Nathalie Herschdorfer, directrice de Photo Élysée à Lausanne, qui possède près de 200 tirages de Sébastiao Salgado dans sa collection.
C'était l'actu culturel de Vertigo, à retrouver sur Play RTS.
Et tout de suite, on accueille
les invités de Vertigo.
Jean-Yves Duhaut et Bertrand Picard, bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Jean-Yves Duhaut, vous êtes illustrateur, dessinateur de presse, scénariste, auteur donc de bandes dessinées. Bertrand Picard, médecin, psychiatre de formation, explorateur. Vous avez à cœur d'articuler ensemble innovation et écologie avec le Solar Impulse Foundation notamment, ce qui vous a valu d'ailleurs il y a quelques jours de recevoir la Légion d'honneur des mains du président Emmanuel Macron. D'abord, félicitations.
Merci. Merci.
Nous sommes réunis autour de cette bande dessinée 1, 2, 3 Picard, pionnier du Ciel et des abysses, sorti il y a quelques jours aux éditions d'Argo. Alors, 1, 2, 3, Picard, pourquoi ? Réponse d'abord en quelques sons.
Mesdames et messieurs, la radio romande m'a demandé de dire quelques mots. Je veux simplement vous parler d'un petit détail qui montre que même quand on croit qu'un domaine est parfaitement exploré, l'exploration directe par l'homme peut encore apporter des surprises.
Auguste effectua notamment la première ascension stratosphérique à 16 000 mètres d'altitude dès 1931. Et quelques années plus tard, son fils Jacques décida de lui emboîter le pas, mais cette fois pour explorer un autre monde inconnu, les abysses de notre planète.
Alors on a fait une très belle expédition, on était 6 à bord. Et on a passé un mois à bord, à une profondeur qui variait grosso modo entre 300 et 600 mètres.
Bonjour Bertrand.
Bonjour Sarah.
Quand j'avais 11 ans, j'ai vu mon père partir avec son sous-marin pour un mois d'exploration du Gulf Stream. Et puis, j'étais invité au décollage d'Apollo 11, j'ai vu partir la première fusée pour la Lune. Et là, je me suis dit, je veux être explorateur. Je veux faire ce que personne n'a encore fait.
On a entendu tour à tour la voix d'Auguste Picard, puis de son fils Jacques Picard, et enfin la vôtre, Bertrand Picard, le petit-fils d'Auguste. Trois voix d'innovateurs, d'inventeurs qu'on découvre donc en suivant le fil chronologique de leur vie et de leurs inventions dans cette nouvelle bande dessinée que vous signez, Jean-Yves Duhaut. 1, 2, 3, Picard, pionnier du ciel et des abysses. Alors elle est costaude, hein, cette BD, elle fait presque 200 pages. C'est le moins qu'il fallait pour raconter ces trois générations d'inventeurs. C'est un projet, je crois, qui a été initié par les éditions d'Argo, qui vous ont proposé comme ça de partir sur ce thème-là. Jean-Yves Duhaut, vous l'avez envisagé d'abord comme une saga, comme un ouvrage de vulgarisation scientifique. C'était quoi votre intention à vous, votre approche ?
Alors c'est vrai que les éditions d'Argo m'ont demandé si ça m'intéressait, puisque l'éditrice connaissait mon travail dans le domaine de la vulgarisation, que j'ai pratiqué longtemps. J'ai visité énormément de laboratoires. C'est un domaine que je connaissais bien. Et j'ai abordé cette histoire sur la famille Picard sous cet angle-là au départ. C'est les premières idées que j'ai eues. C'est toutes ces machines, ces innovations qui vont dans le ciel ou au fin fond de la mer ou qui sont extrêmement sophistiquées ou extrêmement simples, très lourdes comme un énorme bathyscaphe plein d'essence ou un avion solaire ultra léger. Il y avait vraiment beaucoup à dessiner. Mmh. Et visuellement, c'est c'est ces choses-là qui m'ont intéressé au départ. Et puis, j'ai commencé à réfléchir sur l'histoire et voir tout ce que je connaissais pas de l'histoire d'Auguste, l'histoire de Jacques et l'histoire de Bertrand. Et ça m'a intéressé de plus en plus. J'ai pas dit oui dès le premier jour parce que c'était assez énorme. J'ai attendu laisser un peu infuser, comprendre, me renseigner un peu avant de me lancer dans cette aventure assez rapidement.
Et vous, Bertrand Piccard, comment est-ce que vous avez réagi en découvrant ce projet ?
Très honnêtement, j'avais peur au départ, parce que je me suis dit, mais que va devenir l'histoire de ma famille dans des pages sous la plume d'un auteur que je ne connais pas ? Et en fait, j'ai été émerveillé, parce qu'il y a de la science, mais il y a aussi de l'humour, il y a de l'émotion. Et en fait, ce qui me touche très très profondément, c'est que je découvre en images des choses que je n'avais entendues que de manière orale. Mon père me racontait des tas de choses de sa vie, mais aussi de mon grand-père. Puis tout à coup, je vois tout ça dans cette bande dessinée, sous les traits de Jean-Yves Duhaut, qui est un auteur, mais extraordinaire. Je suis émerveillé par le résultat. Je sais pas comment on fait pour retranscrire 15 livres, une histoire, des rencontres qu'on a eues ensemble, d'une manière aussi parfaite, aussi adéquate, aussi subtile. Je suis en admiration devant Jean-Yves Duhaut.
Comment vous avez trouvé toutes les sources, Jean-Yves Duhaut ? Est-ce que Bertrand, d'ailleurs, vous lui avez donné des textes, des documents personnels, familiaux ?
Alors, nous nous sommes rencontrés quelques fois. Je lui ai donné des archives, je lui ai montré les livres qu'il fallait lire. J'en ai donné quelques-uns, d'autres, il les avait déjà. Et puis ensuite, j'ai regardé ce qui venait. Et ce qui venait était magnifique, était tellement subtil.
Il est très élogieux, là, Bertrand Piccard, Jean-Yves Duhaut. Est-ce que parfois il vous a embêté en vous disant « Ah non, non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Non, non, là, il faudrait telle info. »
Justement, Bertrand disait qu'au début, il y avait une certaine appréhension de savoir qu'est-ce qui allait émerger de la part d'un auteur qu'effectivement, il ne connaissait pas. On ne se connaissait pas du tout. Je connaissais les exploits de Bertrand Piccard, mais c'était tout. Et inversement, de mon côté, j'avais quelques appréhensions en me disant « Ben oui, mais si je commence à travailler sur cette famille, est-ce qu'il va pas y avoir Bertrand Piccard qui regarde chaque page et puis qui vient me donner des tas de précisions sur chaque détail ou dire « ça s'est pas passé comme ça, il faudrait le dire autrement ». J'avais aussi quelques appréhensions. J'en avais parlé tout de suite avec la maison d'édition, puisque c'est le genre de situation qui peut arriver dans le cas d'une biographie. Et ça s'est pas du tout passé comme ça, c'était plutôt le contraire. J'ai vraiment bénéficié d'une très grande liberté de travailler à partir de tout ce matériau très librement, comme je l'entendais. Et Bertrand m'a vraiment aidé en m'apportant les informations qu'il avait, ou tous les documents qui sont en sa possession, en plus de ce qu'on pouvait lire.
Et vous vous amusez beaucoup avec le dessin, effectivement, avec ces grosses machines inventées déjà par Auguste, puis par Jacques. Il y a pas mal de clins d'œil, me semble-t-il, dans le dessin à Hergé. Alors, on rappelle quand même que Auguste a inspiré le professeur Tournesol à Hergé, donc sans doute que le lien est là. Vous vous amusez de cette histoire-là, Jean-Yves Duhaut.
Oui, Hergé est très proche parce que d'abord, l'histoire d'Auguste, de Jacques et au début de Bertrand, c'est vraiment parallèle à toutes les aventures de Tintin au niveau du temps. Ça commence au même moment et puis Tintin, c'est les avions, c'est les sous-marins, c'est le voyage dans la Lune, c'est toutes ces histoires-là.
Donc il y a un parallèle à faire.
Il y a un parallèle qui est tout à fait évident. Auguste est à l'origine du professeur Tournesol. Et puis il y a aussi le fait que toutes les aventures de Tintin, c'est une espèce de grammaire graphique dans laquelle j'ai baigné dans l'enfance, comme pas mal de monde, à peu près toute l'Europe. Et donc ça m'a effectivement, c'est tout naturellement que c'est un peu présent dans la manière de raconter cette histoire et de la dessiner.
Alors commençons justement avec Auguste Piccard. Comment vous le décririez, Bertrand Piccard, votre grand-père ?
À l'époque, c'était le génie universel. Il savait tout. Maintenant, on ne peut plus tout savoir. En fait, c'était le ChatGPT de l'époque. Il se rappelait tout ce qu'il avait appris et il savait tout ce qu'on pouvait savoir. C'est pour ça qu'en fait, il a travaillé avec Marie Curie sur l'uranium-235 et avec Einstein sur la théorie de la relativité avant de faire ses ascensions stratosphériques.
C'était déjà un savant. Parce qu'il était d'abord physicien.
Mais absolument. Et il avait ce côté, peut-être que d'autres savants n'avaient pas, de sortir de son laboratoire pour aller faire ses expériences dans la nature. Et une de ses premières ascensions en ballon qui l'ont rendu célèbre, c'est quand il a prouvé la véracité de la théorie de la relativité d'Einstein à 4500 mètres dans un ballon, avec des instruments de mesure.
Un ballon en coton, enfin ça paraît complètement fou quand on y pense. On est effectivement en 1931, donc les moyens sont évidemment pas les mêmes. Mais il ne semble pas avoir peur du tout. Je me suis demandé si cette absence de peur, c'était pas l'un des points communs entre vous trois.
Alors, je pense que pour mon père et mon grand-père, il y avait une absence de peur qui était justifiée par la confiance absolue qu'ils avaient dans la technologie. Chez moi, il n'y a pas une absence de peur. Chez moi, il y a tout un processus pour maîtriser la peur par de la préparation, par du travail sur moi, etc. Moi, je suis un froussard qui s'est soigné.
En plus, vous avez eu un accident très très tôt en ULM, qui est raconté dans l'histoire.
Absolument, en L-Delta, l'L-Delta a éclaté en l'air. Et si j'ai survécu, c'est parce que j'ai fait ce qu'il fallait au bon moment pour pas paniquer. Donc en fait, je suis peut-être beaucoup plus proche que mon père et mon grand-père des émotions, du côté philosophique, du côté de la connaissance de soi. Et pour moi, la technologie, c'est pas un but, c'est un moyen. Alors que chez mon père et mon grand-père, c'était beaucoup plus un but en soi.
Ah, vous diriez que c'est ça la grande différence entre vous trois.
Oui, parce que en fait, on parle toujours père et grand-père, mais on parle pas beaucoup de ma mère. Et ma mère était passionnée de spiritualité orientale, de philosophie, de psychologie. Et c'est elle qui m'a initié à tout ce côté-là de l'exploration du monde intérieur. Et Jean-Yves Duhau le dit très très joliment dans certaines pages. Quand je me dispute avec mon père, parce que mon père me dit « mais une L-Delta, c'est pas scientifique, c'est mal calculé », puis je lui dis « oui, mais c'est intuitif ». Il me dit « heureusement que tu construis pas des sous-marins avec ton intuition ». Jean-Yves me fait répondre « demande à maman, elle comprend ». Et en fait, c'était vraiment ça.
Oui, oui, il y a cette place faite aux femmes, malgré tout, dans ce livre-là, Jean-Yves Duhau.
Heureusement.
Oui, parce que c'est une histoire familiale, une histoire humaine. Il y a aussi les enfants, les enfants d'Auguste qu'on voit pris en photo à travers le hublot de la cabine. Et puis après, de nouveau, dans la génération d'après, on retrouve la même photo. C'est assez émouvant. Et la femme d'Auguste, qui était une figure d'un caractère assez marquant. Et puis la mère de Bertrand, la femme de Jacques. Aussi, qui a été assez présente dans toute cette histoire. Donc je trouve que c'était intéressant de mettre en scène avec tout ce que j'ai pu lire sur la famille, cette histoire-là. Mm-hmm. Même si effectivement les livres d'Auguste et de Jacques sont plus basés sur l'aventure technologique, les rencontres autour de leur réalisation, les femmes y sont moins présentes.
Mm-hmm. Donc je pense que mon père et mon grand-père auraient pu faire ce qu'ils ont fait sans leurs épouses. Moi, j'aurais pas pu. C'est-à-dire que ma femme Michèle, elle est intimement imbriquée et impliquée dans tout ce que je fais. Et c'est pas du tout elle qui me suit. Souvent, c'est elle qui me précède pour que je fasse les choses correctement.
Et qu'on voit effectivement dans l'ouvrage, surtout à la toute fin du livre. Pour revenir juste à Auguste Piccard, donc votre grand-père, on voit ce FNRS, ce projet fou, ce ballon stratosphérique qui va monter à 15 800 mètres. On voit ensuite le sous-marin scientifique, le bathyscaphe, qui va être donc un autre exploit réalisé par Auguste Piccard. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que ça n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a toujours des mésaventures, il y a toujours des barrières qui se dresse, et notamment il se fait déposséder de son bathyscaphe par la marine française via un certain Cousteau. Se faire déposséder de ses inventions, ça me semble-t-il, c'est un autre point commun qu'on retrouve aussi avec Jacques, votre père, quand il est aux États-Unis, notamment avec son projet Challenger Deep. On l'empêche de plonger d'abord. Il doit lutter pour récupérer son propre projet. Ça, c'est un point commun.
C'est un point commun qui est dû parfois à de la jalousie, parfois à des besoins de pouvoir des autres, parfois à des erreurs qu'on a pu commettre. Moi, j'ai failli me faire déposséder de Solar Impulse et de ne pas pouvoir voler dessus, mais je pense que c'était ma faute. À l'origine, je ne m'étais pas préparé suffisamment pour pouvoir voler sur un avion aussi difficile. Et ça, j'ai dû rattraper mon retard. Mais c'est vrai que, quelle que soit la raison, on a chacun, dans les trois générations, perdu ou failli perdre nos projets.
Mmh. Et pareil, donc voilà, avec Jacques Piccard, on l'a dit, si on passe à lui, lui il va prendre le relais sur l'exploration des fonds marins. Auguste avait été l'homme le plus haut du monde, lui il va devenir l'homme le plus bas du monde. Avec cette plongée fameuse en 1960, il va se poser au fond de la fosse des Mariannes, qui est le point le plus profond de tous les océans. Et là, on pourrait se dire, bon, mais à quoi bon? Et apparaissent ici les questions écologiques. il explique dès cette période-là qu'il y a des enjeux écologiques. Il s'agit de montrer que, eh bien, au fond des océans, il y a de la vie, donc on ne peut pas s'en servir comme des poubelles. Vous diriez que la conscience écologique, elle est née chez votre père ?
Elle était déjà là chez mon grand-père, parce que quand mon grand-père est monté dans la stratosphère, il voulait montrer qu'on pouvait voler dans de l'air raréfié dans la stratosphère, où les avions consommeraient beaucoup moins de carburant parce qu'il y aurait beaucoup moins de résistance. Et c'était le début de l'efficience énergétique que maintenant je prône tellement avec la fondation Solar Impulse. Ensuite, mon père, dans la fosse des Mariannes, voulait effectivement montrer qu'il y avait de la vie et que c'était suicidaire de jeter des déchets radioactifs. Et puis, la suite, c'est que mon père voulait protéger l'environnement, mais qu'il n'y avait pas de vraie solution autre que la décroissance économique. Et Jean-Yves Duhau le met très bien en évidence dans le livre. Ce qui fait que moi, mon rôle ensuite, ça a été de continuer cette quête de la protection de l'environnement, mais en amenant les solutions techniques qui permettaient d'obtenir cette protection de l'environnement, qui permettaient de fédérer l'écologie, l'économie, l'industrie, la politique, de manière réaliste. Donc ça, c'est aussi un fil rouge. Il y a beaucoup de fils rouges à l'intérieur de ce livre.
Vous les avez tirés, Jean-Yves Duhau, tout seul, ces fils rouges, ou bien c'est dans des échanges entre vous et dans vos lectures qui vous sont apparus ?
Je dirais qu'il y a une part un peu d'inconnu où je découvre moi-même ce que je fais en le faisant, parce qu'une fois que le scénario est là et fini et qu'on lit la bande dessinée d'une traite, c'est assez différent de travailler pendant 4 ans entre le tout début du projet et la fin, dont les 2 années dernières qui ont demandé la réalisation proprement dite. Et le fil rouge, parfois, il se fait aussi un peu inconsciemment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je vais lire, mettre sur mes croquis, mes esquisses de départ et mes esquisses de scénario qui me semblent importantes. Et puis parfois apparaissent au fil du temps des choses que j'ai pas vues moi-même. Dans une certaine mesure, ça en fait partie parce que c'est des choses dont on a parlé, c'est des échanges avec Bertrand, c'est des échanges avec l'éditeur parce que j'ai pas travaillé tout seul dans mon coin, évidemment, parce que j'avais besoin de ces échanges tout le long. Le fil rouge apparaît, mais je peux pas dire dès le départ, tiens, je vais dérouler ce fil-là. Ouais. Les choses se sont faites un petit peu de manière, c'est un petit peu les mystères de la création. C'est un grand mot, mais c'est...
Mais c'est un fait.
C'est un fait, voilà.
Et Jean-Yves, c'est approprier l'histoire, la comprise, la décliner, c'est remarquable. Parce que moi je sais pas du tout comment on peut faire pour partir d'une histoire et de l'illustrer sur 200 pages avec autant de subtilité. Je sais pas comment c'est possible.
Chacun son métier,
mais
Bertrand.
Le résultat est magnifique.
Vous faites Solar Impulse et Jean-Yves fait ce genre de choses.
J'ai une réponse peut-être à apporter à ça. C'est une des solutions, comment on fait, c'est l'humour. Finalement, qu'est-ce que je recherche dans toutes ces lectures, toute cette histoire? C'est aussi les situations drôles, c'est les machines qui sont marrantes à dessiner, parce que dans la bande dessinée, on est tous un petit peu des enfants. Il y a en moi le petit garçon qui s'amuse avec un avion, avec un bathyscaphe, avec un bateau. Et j'ai gardé cet esprit-là et j'ai envie de le faire partager. J'ai envie que ça soit amusant, que ça soit drôle, que ça soit attrayant et qu'on ait envie de tourner la page pour ça.
Mmh. Bertrand Piccard, s'il fallait une musique pour illustrer cette histoire.
Une chanson, je trouve, qui va très bien avec l'histoire de ma famille, c'est le Yellow Submarine, le sous-marin jaune des Beatles. Et c'est aussi une chanson que mon père écoutait dans sa plongée en mésoscaphe dans le Gulf Stream pendant un mois. Son sous-marin était jaune.
Vous validez, Jean-Yves Duhau, je trouve que ça va bien avec votre dessin aussi, cet esprit.
Oui, tout à fait. Le Trieste était plutôt rouge, mais il y a eu... Non, le Ben Franklin était déjà assez jaune, c'est vrai.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life. In the land of submarines, so we sailed unto the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. Next door, and
Yellow Submarine des Beatles, choix musical de Bertrand Piccard, validé par Jean-Yves Duhaut, nos deux invités aujourd'hui pour parler de cette bande dessinée 1, 2, 3 Piccard, pionnier du ciel et des abysses, qui vient de sortir aux éditions d'Argo et qui raconte donc ses destinées Piccard à travers trois générations. Bertrand Piccard, donc on parlait avant de votre grand-père Auguste, de votre père Jacques. Vous, il y a ce moment très important, ce départ aux États-Unis avec cette chance que vous avez d'assister aux missions Apollo 9, 10, 11. Ça a été une période fondatrice pour vous en Floride.
Ça a été déterminant. Mm-hmm. Parce qu'en fait, je lisais tous les jours les journaux, les revues, les livres sur les astronautes qui avaient volé avec Gemini et Mercury et qui allaient partir dans Apollo. Puis quelques jours après, je les rencontrais. Où ils venaient visiter le sommet de mon père, ils passaient dîner à la maison, j'allais voir leur décollage. Et ça a complètement aboli pour moi la différence entre le rêve et la réalité. C'était, bon, peut-être avec la naïveté de l'enfant, cette impression qu'il suffit de rêver de quelque chose pour que ça se réalise. Et je me suis dit, mais alors, moi, je peux aussi rêver de beaucoup de choses et essayer de les réaliser. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'avoir cette vie-là. Moi, j'aimerais être explorateur aussi, comme tous les amis de mon père et comme toutes mes idoles, tous mes héros.
Et pourtant, vous avez commencé une formation médicale, vous êtes devenu médecin, mais c'est comme si finalement vous ne pouviez pas échapper à cet héritage-là de l'exploration. Ça devait vous rattraper.
Vous savez, c'est amusant parce que mon père a commencé par faire des études d'économie politique avant de travailler avec mon grand-père pour construire le bathyscaphe. Et moi, j'ai fait des études de psychiatrie et j'ai travaillé comme psychiatre. Mais en fait, c'est ça qui m'a ramené à l'exploration familiale. Si Wim Verstraeten m'a proposé de m'embarquer sur cette course transatlantique en 1992, en ballon, c'est parce que j'étais psychiatre et que je pouvais amener comme une arme secrète pour lui permettre de dormir, de se déstresser, de régler la température corporelle avec l'hypnose, etc.
Et donc ça a été effectivement un premier record, ce tour du monde en ballon, sans escale. Battre des records, est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir un but quand on a eu avant, justement, un grand-père, un père qui en ont battu? Est-ce qu'il n'y a pas une conscience derrière qui nous dit « il faut que j'en fasse, faut que j'en batte un moi aussi de records ».
Alors en fait, dans les trois générations de ma famille, c'est jamais les records qui nous ont intéressés, c'est les premières. Quand vous battez un record, vous ne faites que de battre celui qui a fait quelque chose avant vous et vous savez que c'est possible. Quand vous vous lancez dans une première, vous ne savez pas si c'est possible. Il n'y a pas de benchmark. Il n'y a personne qui vous dit comment faire. Et autant pour le bathyscaphe que pour le ballon stratosphérique, que pour Breitling Orbiter, que pour Solar Impulse, ben il faut tout inventer avec une équipe, avec le risque de rater. Mais vraiment, je crois qu'il faut voir ça. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère, il a été annoncé mort par les médias du monde entier avant d'atterrir. Parce que tout le monde pensait que c'était impossible. Quand mon père a plongé dans la fosse des Mariannes, il est descendu à 11 000 mètres, les sous-marins des marines nationales plongeaient à 300 mètres. Quand je suis parti pour le tour du monde en ballon, il y avait eu 20 échecs de Richard Branson, de Steve Fossett, de tas de gens avant moi, y compris deux échecs de ma part. Tout le monde pensait que c'était impossible. Solar Impulse, c'était la risée du monde aéronautique qui disait un avion si grand et si léger pourra jamais voler. Donc c'est ça l'intérêt de la première. C'est qu'en fait, vous attirez autour de vous des pionniers qui vous aident parce qu'ils ont envie de résoudre des problèmes, envie d'amener des solutions. Et puis tous les sceptiques, ben, ils se contentent de rire au début avant de voir qu'ils avaient tort de rire.
Et ce qui apparaît aussi chez les trois générations, c'est l'incapacité à vous arrêter. C'est comme si un projet devait en amener un autre.
C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, on apprend de toutes ces expériences à faire toujours mieux. Et je pense que le succès, c'est pas un but en soi. Le succès, c'est uniquement la marche suivante sur laquelle on peut monter pour être plus crédible, pour être plus performant, pour avoir une plus grande expérience, pour pouvoir aider peut-être encore plus les autres, avoir plus d'influence positive.
Qu'est-ce qui a été pour vous, Jean-Yves Duhaut, le plus difficile, le plus gros défi avec cette bande dessinée?
C'est difficile à dire.
Votre exploit à vous, en fait.
Au début, j'ai été confronté à un siècle d'histoire et une somme de documentation qui avait l'air infinie. Et je me demandais comment j'allais m'en sortir. Je crois que c'est un peu toujours le cas à chaque projet, différemment. Celui-ci était quand même assez particulièrement ardu. Est-ce que j'allais y arriver? Je crois que c'est un petit peu la même idée. J'étais pas très sûr d'arriver au bout. Ça fait partie des difficultés d'auteur.
Mmh. Il me semble que très subtilement aussi, vous glissez dans cet album, Jean-Yves Duhaut, la question de la reconnaissance paternelle. Pas forcément simple à obtenir et en même temps très désirée. Qu'en dites-vous l'un et l'autre?
Je pense que oui, il y a une anecdote qui est assez marquante et qui date de la naissance d'Auguste Piccard. C'est quand Auguste et son frère jumeau sont nés, leur père était très malade, voire peut-être mourant. Et c'est la naissance de ses fils qui l'a remis sur pied. Et quelque part dans la famille, ce que m'a dit Bertrand la première fois peut-être qu'on s'est parlé, c'est que dans cette famille, il y a cette espèce de rôle du fils qui sauve le père un peu. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça ou autrement. Mais...
Vous le diriez comme ça, oui, Bertrand?
J'aime beaucoup comme tu dis ça. Une fois de plus, tu as tout compris encore mieux que nous dans la famille. C'est vrai, le fils qui sauve le père. C'est vrai que mon père a sauvé mon grand-père en trouvant les gens qui ont financé la construction du bathyscaphe. Sinon, mon grand-père aurait terminé sa vie sans le bathyscaphe. Et d'une certaine manière, c'est assez amusant parce que le tour du monde en ballon et Solar Impulse, ça sauve un peu mon père dans le sens où ça permet de reparler de lui à un moment où peut-être qu'on l'aurait oublié et que tout ce que je fais est une manière aussi de rendre hommage à l'esprit pionnier que mon père m'a appris, que mon grand-père lui a appris. Et ce sens de l'exploration, c'est pas simplement quelque chose de scientifique, c'est un état d'esprit dans la vie. C'est comment est-ce qu'on peut développer sa curiosité, comment on peut se confronter à l'inconnu, comment on peut se confronter aux doutes, à tous ceux qui vous disent que c'est impossible. Et ça, ben, que ce soit sous l'eau ou dans les airs, ou dans la vie, c'est la même chose finalement. Mm-hmm. Et c'est ce que mes filles ont retenu, ce « pioneering spirit for life ». C'est leur slogan, c'est elles qui l'ont développé, l'esprit pionnier pour la vie, dans toutes les activités. Alors elles sont avocates, architectes, consultantes, mais exactement avec le même esprit que ce qui nous a toujours animés dans la famille.
Et ça s'appelle 1, 2, 3, Piccard, pionnier du ciel et des abysses. Un grand merci à vous, Bertrand Piccard, Jean-Yves Duhaut, d'être venu en studio pour nous parler de cette bande dessinée qui vient de paraître aux éditions d'Argo.
Avec plaisir, merci.
Merci. Et à 17h56, on passe au coup de cœur de notre programmatrice musicale Nadia Mitic, qui va aujourd'hui à Noah Ferrari, auteur, compositeur, producteur zurichois de 25 ans.
Wake up at 3, count my money. Not much, but just let it be. Swim in the lake, summertime breeze.
Take a picture.
French girl so lost in the view. I help her get out, she says,
oh, merci beaucoup.
Red wine drip drip in my glass. Just hang around and sit on my ass. Saying goodbye. I need you.
Okay.
Chi va piano, va sano e lontano. O forse a Milano, come mio padre italiano. Dammi la tua mano e domani ce ne andiamo. Step on the gas, everybody always stuck in the past. I'm just looking ahead, the world is funny man, it makes me laugh.
I put words on the blacklist. I lock them up in a cave. They are ready to be my slaves. They can't shout, they can't scream, cause their voices are paper thin. I stroke the letters in edgy corners. I want them to be nice and to dance on my tongue. To dance on my tongue. To dance on my tongue. Clouds in front of my eyes. Is it paradise? Clouds
questioning my empathy. Cause all they endure is mental torture, and it's their daily nurture. Their only treasure is their sap that I collect religiously on my paper. You understand now why my music is a trap, and why it grows in you like a skyscraper.
Les émissions de la journée pour accompagner vos nuits. RTS Première, il est 4h.